Ah, comment ne pas parler de la Maison-Blanche et Donald Trump dans l'actualité? Mario en parlait tantôt, et là, la Maison-Blanche, vous le savez, a suspendu l'accréditation médiatique du correspondant du réseau CNN, Jim Acosta. Et ça survient évidemment après l'échange tendu hier entre Acosta et Trump. Il y avait une conférence de presse à la Maison-Blanche. C'est que le journaliste Acosta a tenté d'enchaîner avec une deuxième question. Il a posé une première question. Donald Trump lui a répondu. Et là, le journaliste a insisté pour une deuxième question, et là, ça touchait l'espionnage russe. Vous comprendrez que Donald Trump n'était pas très content. Alors, il a dit c'est assez, et puis il y a même une employée de la Maison-Blanche qui a tenté d'arracher le micro au fameux journaliste. Alors, si vous n'avez pas entendu cette altercation-là, on va l'écouter ensemble.
If I may ask one other question, are you worried?
That's enough. That's
Mr.
enough.
Mr. President,
that's
I was going to ask one of the other folks.
That's
had,
enough.
Pardon me, ma'am. Mr. President,
that's enough.
Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Bon, c'est assez particulier. Même à l'émission de Paula, une journaliste hier disait sur nos ondes qu'elle n'a jamais vu ça. Une journaliste qui était à la Maison-Blanche depuis des années. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu ça. Quelques heures plus tard, la porte-parole même de la Maison-Blanche avait publié un communiqué accusant Acosta d'avoir mis ses mains sur une stagiaire. Je sais pas. Là, on l'a entendu. Je sais pas si vous l'avez vu. L'as-tu vu, toi, Mario?
Oui.
Bon. Moi aussi, je l'ai vu. Est-ce que il t'a semblé que le journaliste a repoussait l'espèce de stagiaire qui voulait reprendre le micro, là.
C'est dur à dire.
C'est ça, moi aussi. Parce que je me suis posé la question suivante. T'es journaliste. Mettons qu'il y a un journaliste, puis on connaît ça, hein, parfois des points de presse, on dit « OK, question suivante, puis quand c'est fini, c'est fini. » Quand un journaliste insiste, j'ai rarement vu, moi, tu sais, on voit qu'on essaie de retirer un micro, mais j'ai rarement vu quelque chose comme ça, là, que ce soit un président ou un premier ministre s'en prendre ouvertement un journaliste lors d'une conférence de presse, c'est très particulier.
Honnêtement, oui, puis j'en ai fait beaucoup, puis sur la colline parlementaire, puis quand tu couvres des événements au fédéral, justement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des scrums, des mails et de presse, là. Il y en a du monde, puis des micros, puis les questions, même si un porte-parole nous dit « dernière question », là, oubliez ça, là, il en reste tout le temps une, deux ou trois, puis des fois, l'intervenant va choisir de répondre quand même à ces journalistes-là. Mais quand on connaît Donald Trump, puis qu'est-ce qu'il pense de CNN, ben là, je pense qu'il y a tout l'historique qui vient en arrière de ça, puis ça a été probablement accentué. Puis, alors, tu sais, c'est du cas par cas. Là,
c'est ça. Et tout ça survient quelques heures après l'élection de mi-mandat aux États-Unis, puis on voit plus ça change, plus c'est pareil finalement du côté des États-Unis. Alors voilà, et ça va continuer de faire réagir, mais on l'a dit hier, ça risque d'être clownesque au cours des deux prochaines années du côté de Washington. Autre dossier, c'est là plus, ça se passe chez nous. Bon, la nouvelle, elle est sortie hier ou avant-hier, là, concernant les fameuses lumières Dell du côté de Gatineau. Gatineau qui va investir un peu plus de 10 millions pour se convertir à la technologie Dell, l'éclairage Dell. Les villes de Montréal l'ont déjà fait, Québec, je pense, Sherbrooke. C'est l'avenir, l'éclairage Dell. Vous en avez peut-être même à la maison. C'est très économique. Ça coûte beaucoup moins cher de consommation d'électricité. Et en remplaçant le vieux système de lumière qu'on a à Gatineau, ben on parle d'économie de 1,2 million de dollars par année avec l'éclairage d'elle. Bon, maintenant, on sait qu'il y avait eu des plaintes ici, même du côté de Montréal. Je me souviens d'avoir lu ça également. Puis dans d'autres villes, que c'était peut-être les ampoules, les lumières étaient peut-être trop fortes. Hein? Ouais. Alors, ce qui fait que puis la lumière bleue, là, la lumière d'écran, d'ordinateur, de téléphone, vous avez des lumières d'elle à la maison, c'est pas l'idéal avant d'aller se coucher. Le cerveau perçoit ça comme la lumière du jour. Ça, c'est prouvé. Maintenant, tu dois jouer avec l'intensité de ces lumières-là. Alors, à Solide comme le Rock, hier, pour ce dossier-là, il y a Martin Aubé, parent avec toi.
Ah non, pas du tout. Écoutez ce que tu as dit.
Ben Martin Aubé, il est professeur de physique au Cégep de Sherbrooke. Il est expert en pollution visuelle. Puis on lui a demandé s'il y avait un danger pour la santé.
Moi, j'ai participé récemment à une étude sur des larges populations là où on a regardé est-ce que la présence de bleu dans l'éclairage de rue a un lien, disons, avec la santé. Puis on a regardé dans ces cas-là deux cancers, c'est-à-dire le cancer du sein et le cancer de la prostate. Puis on a trouvé, nous autres, que lorsqu'il y a des gens, lorsque la lumière bleue dans l'environnement immédiat, on a à peu près deux fois plus de ces cancers-là. Donc, ça prouve pas que c'est la cause, ceci dit, là, mais on essaie d'exclure tous les paramètres dont on connaît là, leur effet sur le cancer. Puis, il reste que, après avoir fait ça, on a encore deux fois plus de cancers. Donc, on peut se dire, c'est pas une preuve, mais au moins avoir un certain doute, là, puis une précaution, à savoir, peut-être qu'on devrait limiter cette quantité de bleu-là.
Bon, ça me fait penser un peu, il y a 20-30 ans, les premiers cellulaires, on disait que ça donnait le cancer du cerveau. Je me souviens de ça. On disait, c'est parlez pas longtemps au téléphone.
Et non seulement ça,
c'est ce qu'on disait au début.
Oui, ceux qui le portaient, le cellulaire, dans leur pantalon.
Ça fait le cancer des testicules. Oui, oui, ce qu'on disait au début. Là.
En même temps, ça fait pas beaucoup d'années. Là. Peut-être que dans un autre 10, 15, 20 ans... Là,
ça... Tu parles pour les cellulaires?
Oui, mais mettons que ça prend plus...
Ah ben oui.
Effectivement, c'est pas, là, on est encore dans les débuts.
C'est très embryonnaire, effectivement. Ouais. Et même chose pour l'éclairage d'ailes. C'est juste ça que je veux dire. Il ne faut pas paniquer. Écoutez, l'éclairage d'elle semble être l'avenir. Puis bon, est-ce que l'avenir va faire en sorte que dans 100 ans, les gens vont tous mourir du cancer? Je ne sais pas. Mais on en est rendu là dans la technologie. Mais c'est ça. Alors, faut pas partir en peur, mais faut pas non plus ignorer tous ces dangers-là potentiels de maladie. Aussi, le dossier des sénateurs a fait énormément jaser. Même dans la presse, ce matin, un peu plus tôt, là, ils ont changé l'ordre, mais ce matin, la une de la presse sur leur site Internet, c'était « Uber, attention aux conversations de taxi ». C'est qu'on s'est approprié un peu le dossier des sénateurs, puis on a fait un reportage là-dessus, parce que ça fait le tour du monde, évidemment. Puis là, il y a des avocats qui se mêlent de ça, qui analysent effectivement. Est-ce que... Si tu es dans une voiture de taxi, puis tu dis quelque chose de confidentiel, tu te fais filmer, c'est-tu légal, c'est-tu pas légal, là, tout le monde se prononce un peu sur ce dossier-là. Mais également, hier, LP, lui, sur nos ondes, avec Maître Philippe Coderre, qui est avocat spécialisé en droit du travail, voulait savoir finalement, si tu bitches, excusez-moi l'expression, mais ton patron, puis que ça vient aux oreilles de tes patrons, est-ce qu'il peut?
Non.
Tu peux-tu perdre ta job? Qu'est-ce qui arrive? On écoute la réponse de Maître Coderre.
Des employés qui bitchent contre leur patron, est-ce que c'est une faute grave, ça?
Bien, ça dépend, là. Tu sais, il faudrait vraiment avoir la tête dans le sable pour penser qu'il n'y a pas de bitching dans un milieu de travail. Là. Ça fait partie de la, je pense, de l'espèce humaine, là, de ventiler de temps en temps. Je vous dirais que la nature de la faute va dépendre des propos qui ont été tenus. Par exemple, si on critique le travail de son patron, bon, peut-être ça nécessite un petit meeting par la suite, c'est une chose. Mais si on commence à aller dans le personnel, puis on fait de la diffamation pratiquement contre cette personne-là en propageant des rumeurs ou peu importe, non seulement ça peut être une faute grave, ça peut aussi constituer une forme d'harcèlement psychologique si ça se répète à maintes reprises. Donc,
dans certains cas, ça pourrait même aller jusqu'au congédiement, je présume.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça dépend vraiment. Généralement, d'abord, la question qu'on se pose, c'est comment c'est venu aux oreilles du patron. Ça, c'est une des choses. Mais par la suite, effectivement, une fois que c'est rendu aux oreilles du patron, là, peu importe comment que ça s'est rendu là, selon la nature des propos qui vont avoir été émis par les personnes impliquées, ça peut devenir une faute grave qui justifie un congédiement, particulièrement lorsque le poste de la personne est très élevé dans l'entreprise.
Bon, alors, voilà. Alors, je pense que ça fait le point. Il faut faire attention. Donc, c'est... Entre deux employés ont le droit de dire qu'ils n'aiment pas un patron. Ils n'étaient pas obligés d'aimer tout le monde avec qui tu travailles. Mais si tu pars une fausse rumeur, si j'ai bien compris là, de ce que Maître Coderre disait, c'est diffamation, quoi que ce soit, ça, c'est une autre chose. Il faut faire attention à ce que vous dites. Mais grosso modo, c'est une conversation entre deux personnes dans un corridor sur le boss. Il a dit, Maître Coderre, là, à part au 104-7, là, ici, ça n'arrive jamais. Hein, Mario? J'ai personne ici qui...
Jamais entendu hein? Parler.
Moi, non plus, Nadia, tout non plus. Genre, hein?
Quand t'es pour ton lunch, le boss, c'est correct.
Ben oui, non, absolument, non, on l'adore. Non, ici, ça se passe pas
mais
comme ça.
En même temps, quand on regarde ça, là, on cible vraiment les propos, mais je pense que l'intervenant le dit très bien, ça dépend de ce qu'on dit.
Voilà.
Parce que n'importe quel patron, je pense, si tu veux évoluer, c'est que ça prend de la critique constructive, puis souvent, tes employés, c'est les mieux placés pour te guider, puis voir qu'eux sont sur le terrain tous les jours. Là, on parle d'employés de n'importe quelle sphère, je pense, de la société. Fait qu'en même temps, quand tu écoutes, au lieu de ne pas écouter, quand tu as un patron qui écoute tes employés, ben ça aide tout.
C'était ouvert, effectivement.
Ben, probablement que tu t'enlèves un peu du côté de la critique.
Absolument.
Tu fais avancer ton entreprise.
Et tu sais qu'un patron, c'est important, c'est prouvé. C'est-à-dire un patron, un mauvais patron peut avoir des conséquences sur le travail des employés et l'inverse aussi, du côté positif.